Bienvenue à cet épisode Q&A sur le sommeil partagé en famille. Pour ceux qui écoutent en ce moment, Marc Aurel dort sur moi en portage. Donc, si vous entendez respirer un bébé, ben c'est lui.
Ou ronfler.
Ou ronfler peut-être.
Ouais. C'est lui. Ben en fait, endormir Marc Aurel en portage, c'est un truc assez infaillible.
Ouais.
Il a fait la majorité de ses siestes sur Vince, plus que moi, mais moi aussi, souvent quand on marchait, il était dans mes bras. Et plus il grandissait, ben plus on a commencé aussi à le déposer à certains moments. Puis là, il finissait sa sieste endormi sur, au sol, sur un autre divan de jeu.
Exact. Puis là, habituellement, pendant les shoots, on le fait garder. C'était pas possible aujourd'hui. Donc, il dort sur moi.
Oui, on est un peu nerveux parce qu'il est... juste après avoir accouché, je pense après 3 mois, on a refait quelques épisodes de podcast, puis Marc Aurel dormait tout le temps dans mes bras, mais tu sais, pour vous écouter, c'est comme 20-45 minutes, mais nous, ça a comme pris 3-4 heures les shooter parce qu'il se réveillait. On était des nouveaux parents, on n'a pas plein d'affaires. Bref, aujourd'hui, un an plus tard, on parle de sommeil. Les questions qu'on va adresser qui reviennent fréquemment quand on parle qu'on dort au sol, fait qu'il y a une portion dormir au sol, puis après il y a la portion dormir en famille, mais le dormir au sol, les questions qui reviennent souvent, c'est quel matelas vous utilisez. Fait que c'est comme séparé en deux, c'est quoi le modèle, puis est-ce qu'il y a des marques à recommander. La deuxième chose, c'est comment vous avez transitionné, genre.
Parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain.
Puis finalement, des dernières questions, comme ouvrir un peu la discussion sur pourquoi un enfant serait aussi turbulent la nuit, pourquoi. Parce qu'on a posté,
parce
là.
Que, ouais, on a fait un meme qui riait du fait que Marc Aurel nous kickait dans face la nuit.
Ouais.
Puis, on a eu plein de commentaires de gens qui ont un peu partagé cette expérience-là aussi avec nous. Fait qu'il y a de quoi là, tu sais.
Ouais. Fait que de dire qu'est-ce qui fait qu'un enfant finit à l'horizontale, ça m'intrigue énormément. Fait qu'on va finir la discussion avec ça. Donc, quel matelas on utilise?
Une des questions qu'on s'est fait le plus poser, je pense, à travers les années.
Ouais, absolument. Ouais. Il y a une couple d'années, on a acheté un matelas, un futon japonais d'une marque japonaise sur Amazon. On avait analysé une marque québécoise, puis cette marque-là. On a choisi cette option-là parce que l'épaisseur nous convenait davantage, la taille qu'on recherchait. Je pense qu'il y avait, tu sais, comme, il y avait plusieurs tailles. Puis, on visait quelque chose de très, très mince. Moi, je veux quelque chose de vraiment ferme. Je le recommande pas à tout le monde. C'est pour ça que...
Ben, c'est ça. Si ça fait plusieurs... Si vous avez toujours dormi sur un lit surélevé et plutôt mou, c'est pas une bonne idée de commencer avec un lit très mince au sol.
Au sol, très ferme. Ça peut ne pas être le fun. Mais à moins que vous ayez un craving fou pour dormir sur du dur. Mais...
Puis, je sais qu'on l'a mentionné dans l'autre épisode, mais on n'a pas commencé non plus par ça. Nous, il y a une grosse période de transition.
Ouais. On en parle.
On en parle.
Fait que matelas, les matériaux en coton. C'est sûr que la compagnie, j'essaie de retrouver des informations sur Internet, semblait plus ou moins transparente. Les reviews étaient très bons. Fait que j'ai décidé de faire confiance, à savoir si c'est réellement 100% coton, si c'est fait au Japon. Je ne suis pas 100% certaine non plus. Fait que c'est pour ça que je ne crie pas cette marque-là sur tous les toits. Il y a des marques, des fois, que j'ai coup de cœur que je vais recommander chaleureusement. Celle-ci, nous, on est super satisfaits de notre achat. Fait que c'est ça, je ne vais pas comme rechanger pour un matelas, mettons, québécois ou avec des matériaux certifiés écolo parce que je ne veux pas consommer plus ou gaspiller.
On va minimiser la consommation. Puis, veux pas, il n'y a pas une... Comment dire? Il n'y a pas des milliers de compagnies qui font ce genre de matelas-là non plus. Fait qu'il faut faire un peu avec ce qui existe.
Fait que ça, c'est la nôtre. Ceci dit, à savoir, je sais que la question déjà, c'est aussi, as-tu des choses à me suggérer? Bien, la réflexion à avoir, c'est quoi vos besoins? Parce que le choix de votre matelas va dépendre de vos besoins à vous. Nous, on donne énormément d'exemples dans notre appart. Puis c'est un petit espace. Fait que c'était vraiment important pour nous que le matelas, on aimait qu'il soit mince, non seulement pour la fermeté que ça nous offrait la nuit, mais aussi parce qu'il est léger, il est facilement pliable. Moi, je peux squatter puis le lever au-dessus de ma tête facilement. Puis je jugeais que c'était une forme d'entraînement. Mais tu sais, c'était pas comme chiant au point où je voulais pas ranger mon lit le matin. T'sais, s'il aurait été un petit peu plus lourd, puis informe, puis difficile à bouger, ça m'aurait fait sacré, je pense. Puis là, il est comme facilement transportable. Rangeable. Nous, c'était important pour nous parce qu'on voulait gagner une pièce en journée, avoir moins de pression financière, d'avoir un appartement plus grand. Mm-hmm. Nous, on trouve ça génial. Si vous avez une grande maison, puis que vous avez une chambre, puis vous pouvez laisser votre matelas là, puis ça vous fait plaisir de ne pas avoir à le ranger, je le comprends. Dans ce cas-là, ça vaut la peine de prendre en considération, allez-vous avoir une base de lit ou pas?
Ouais.
Parce qu'on veut dormir au sol, mais on comprend aussi pourquoi l'humain, au fil du temps, a créé des bases de lit. Mm-hmm. Je pense qu'en partie, selon les pays, ça doit pour s'éloigner, empêcher l'humidité, la création d'humidité, l'humidité, ouais, favoriser l'aération. Dans certains épisodes, on parle des charpoys, des lits indiens, justement, ça, il y a de l'aération dans les pays chauds. Ça peut être de s'éloigner aussi de petites créatures rampantes,
insectes et lézards et de toutes autres. Sortes.
Considérant que nos maisons au Québec sont probablement bien isolées, il n'y aura pas les petits insectes. Si on est climatisé, bon, il y a une certaine fraîcheur. Mais l'humidité, ça peut quand même être un enjeu.
Même nous, on l'a vécu. Au début, on laissait le matelas sur le sol en tout temps, je pense, sur un plancher de bois.
Oui, puis une de nos erreurs, puis l'appart est très sec, là. C'est pas un appart très humide. Non. Une de nos erreurs, mais c'est qu'on laissait aussi les couvertes par-dessus. Ouais,
on faisait le lit. Quand on était petit. On faisait le lit, mais ça faisait en sorte que l'humidité restait entre le plancher de bois et le matelas. Puis, il commençait à avoir des petits points de, je ne sais pas si c'était de la moisissure ou en tout cas de quelque chose de notable. Fait que là, hyper rapidement, on a réagi. On a lavé sur vinaigre.
On a désinfecté à
la grandeur. Fait que ça c'est...
Ça s'est pas...
Ça s'est réglé. Ouais. Mais ce qu'on a fait par la suite, on a pris l'habitude, comme ils font au Japon, en fait, là, de laisser aérer pendant la journée. Donc, nous, on l'accroche dans un garde-robe. Mais ça peut être sur une rampe, ça peut être n'importe où. Puis, on a aussi acheté un couvre-matelas pour aider, si je me souviens bien.
Bien, c'était parce que cette année-là, on dirait que j'avais des allergies, comme, puis je pense que c'était lié à l'extérieur. J'ai jamais trouvé pourquoi, mais pendant un bout de temps, je pensais que c'était lié aux acariens.
La congestion la nuit.
La nuit, puis là, je me disais, est-ce que c'est parce que je me suis rapprochée encore plus du sol? Parce qu'on a quand même dormi longtemps sur un matelas au sol, en tout cas. Fait que là, je me disais, est-ce que c'est à cause de la poussière? Fait que là, je me disais, je vais acheter une housse anti-acariens en m'aidant. Puis finalement, c'était peut-être pas ça, mais la housse était comme imperméable. Mm-hmm. Puis quand on a eu un bébé.
Super utile.
Avec les pipis nocturnes, les montées de lait, moi, j'ai adoré ça parce que ça me réconfortait que mon matelas en coton soit protégé. Mais en même temps, c'est l'absurdité un petit peu que, tu sais, quand on choisit du coton, c'est justement pas pour être en contact avec des textiles, avec des produits qui peuvent être toxiques pour la santé. Fait que, tu sais, cette housse-là imperméable a assurément du plastique dedans. Est-ce qu'il y a des microparticules qui polluent l'environnement? Tu sais, c'est là où ça devient un petit peu complexe. Mais écoute, pour l'instant, on est quand même content de cet aménagement.
On est content de notre setup en ce moment.
La base de lit peut être appropriée, même juste d'un point de vue esthétique. Là, je le vois sur Pinterest, il y a des chambres avec des mini bases de lit en bois. Puis c'est beau, là. T'sais, moi, je trouve ça beau, mon matelas déposé au sol. Mais tu sais, je comprends des gens qui font une base de lit pour l'aération. Ce que je recommanderais, tu sais, si le but, c'est de se rapprocher du sol pour squatter plus, d'avoir une base de lit qui est assez basse. Ça serait ma recommandation. Ou si vous le laissez directement au sol, il y a différentes façons. C'est comme Vince disait, ça le suspendre ou plier une moitié du matelas une journée ou replier l'autre ou le lever. Fortement recommandé parce que même chez mes parents, ils ont aussi acheté des matelas pour le sol. Puis le sol est plus humide, puis on le voit que
il y
avait de l'humidité. Ce qu'on fait, c'est qu'on
flip-flop.
On flip-flop.
Ouais.
Ça, c'est ça. Et l'autre chose à prendre en considération, c'est, il y a la taille de votre espace, mais aussi, est-ce que vous voulez être mobile ou pas? Est-ce que vous faites souvent du camping? Est-ce que vous allez souvent en visite chez des amis? Est-ce que vous avez une aspiration de vivre en campeur ou en van? Nous, ça a été une de nos considérations. Parce qu'on a une van Volkswagen campeur, que la banquette se transforme en lit, ce qui est quand même vraiment très cool. Nous, c'est ça, on voulait s'habituer à dormir sur du dur à la maison, puis dans la vente, ça devenait un petit peu plus facile aussi. Mais dans certains cas, on voulait facilement pouvoir transporter notre matelas. Si on veut dormir en camping dans une tente, ou si, mettons, on part avec des amis, puis on laisse la vente à quelqu'un, puis là, nous, on dort dehors. Puis si on va chez nos parents, comme c'est le cas en ce moment.
Fait que d'amener carrément notre... Nous, on amène carrément notre lit avec nous. Puis c'est pas... Il prend pas énormément de place
ouais.
dans notre véhicule parce que justement, le mattress pli est assez mince. Fait que un gros plus pour nous qui a opté pour peut-être ce, un style de vie comme ça. Mais c'est ça. La question est bonne à se poser. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous...
Oui, c'est ça. Voulez-vous
pensez
le...
faire
ou voulez-vous non? le déplacer?
Ouais.
Si c'est en déplacement, parce qu'il y a des futons japonais qui sont super épais, super lourds, super durs à bouger. Fait genre, si c'est la vision que vous avez et ce qui vous interpelle, bon, c'est peut-être pas ce que vous, vous accompagnez partout.
Mm-hmm.
Dans ce cas-là, je dirais qu'il y a deux grands modèles de trucs transportables. Bien, il y a un peu comme le nôtre, que c'est un. C'est ça, c'est mince, puis il se plie, même, je pense, en. C'est comme une fois, deux fois. Genre, ouais. Fait qu'en quatre, mettons.
Mm-hmm.
Sinon, il y a des matelas qui sont faits pour être pliables. En fait, c'est comme une mousse plus ferme, puis il y a comme carrément des plis qui fait que quand tu le plies, le fermes, ça fait, mettons, un carré parfait.
Mm-hmm.
Ça, c'est des modèles qui existent, qu'on utilise aussi, parce que ça, c'est le modèle que mes parents ont acheté pour la visite, puis c'est vraiment génial. Ah, c'est ouais. carrément, il y a une petite poignée, il y a une petite housse, en plastique pour mm-hmm. comme, protéger le matelas dans
très
le transport,
mobile aussi,
très mobile. Ouais. Ça se range bien à la maison, ça se transporte bien. Fait que, ça, je dois dire, quand même un gros coup de cœur pour ça.
Mm-hmm.
Puis, l'autre chose, c'est un autre type de modèle. Fait que c'est comme c'est ça, le coton mou, la mousse un peu plus ferme. Mais encore là, ce modèle-là a été acheté chez Costco. Fait que je sais que certaines personnes dans notre audience, un peu comme nous, sont aussi soucieux de où on achète les choses.
Mm-hmm.
Ce modèle-là, on l'avait choisi chez Costco parce que pour vrai, le prix était super abordable. En termes de dimension, c'est exactement ce qu'on recherchait. Encore une fois, au niveau des matériaux puis de la production, c'est pas aussi charmant que de dire que c'est fait au Québec en matériaux écologiques.
Mm-hmm.
Mais la fermeté, nous, on, pour vrai, j'adore ce modèle-là. Sinon, il y a des modèles en latex ou mousse mémoire qui existent. Une fois, quand ma soeur était en visite, elle habite en Colombie-Britannique, puis il manquait, tu sais, il y avait une envie de dormir au sol avec les bébés. Je pense pendant un bout de temps, on avait carrément juste dormi sur le surmatelas que IKEA va vendre.
Mm-hmm.
Tu sais, qui a, je sais pas moi, 2 pouces d'épais peut-être?
Peut-être 2 pouces, ouais.
Fait pour certaines personnes, c'est juste quelque chose à rajouter sur le matelas pour soit de la mollesse ou de la dureté, comme pour comme...
Balancer un peu.
Balancer. Ouais. Puis moi puis Vince, pendant un bout de temps, puis je pense que ma soeur aussi, c'était comme juste là-dessus qu'on dormait.
Ben oui.
Puis ça aussi, ça a super bien marché. Puis je sais qu'il y a un peu l'équivalent dans certaines marques québécoises. Si vous voulez les noms exacts, écrivez-moi. Moi, je ne les ai pas essayés, mais j'ai des amis qui en ont acheté. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a une des marques québécoises que mon ami me dit qu'ils font du sur-mesure. Fait que, tu sais, on dirait que sur leur site, il me semble, quand j'ai regardé, c'était pas super apparent qu'ils faisaient du sur-mesure parce qu'ils ont l'air d'avoir des matelas classiques. Mais lui, il a contacté la compagnie puis il a fait faire un peu comme le modèle qu'on a chez Costco. C'est un matelas individuel, comme un lit simple, en guillemets, qui se replie. C'est plus épais, lui. Je pense qu'il était autour du 3 pouces, peut-être. Puis lui, il en a, notre ami, il en a pris 2 pour les mettre côte à côte pour avoir un plus grand lit.
Mm-hmm.
Fait que ça aussi, c'était possible.
Mm-hmm.
Fait que dans mes questions pour vous sur qu'est-ce qui serait le plus adéquat, il faut aussi vous demander, préférez-vous un grand lit? Un grand lit, mettons, ou des matelas solo, ou des matelas simples que vous collez pour agrandir votre lit finalement à l'infini.
Oui, au fur et à mesure où les enfants se rajoutent, ben là, potentiellement agrandir votre lit à l'infini.
Pour avoir fait les deux fonctionnent super bien.
Ouais.
Mais prenez le temps de mesurer votre espace, de mesurer l'espace que vous pensez que vous avez besoin pour dormir selon le nombre d'enfants dans votre lit aussi. Une façon de le faire, ça peut être de prenez votre espace, mettez du tape à terre, puis carrément, couchez-vous à terre, puis essayez de voir comme, combien de place vous prenez.
Ben oui, bonne idée.
Ben encore une fois, on cite le Japon, parce que c'est un des exemples qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré dans notre aménagement de maison, mais j'avais vu un reportage, j'avais tout regardé, le maître futonnier, là, je ne sais pas comment on l'appelle, là, un monsieur qui faisait encore des futons à la main, c'était beau, vous pouvez regarder ça sur YouTube, vous allez trouver des reportages sur des familles qui expliquent leur aménagement de sommeil, puis on voit justement, je me rappelle d'un des reportages, c'était un couple qui avait chacun son matelas, et le bébé avait son petit matelas entre les deux au milieu. Fait que si vous et votre conjoint, ça c'est une autre dimension, si vous n'aimez pas la même fermeté de matelas, ben ça peut être une solution géniale d'avoir chacun votre matelas, puis que l'enfant en ait un autre, l'enfant ou les enfants. Tu sais, je veux dire, encore aujourd'hui, mon père puis ma mère, on a parlé de matelas, puis justement, on est allé chez IKEA magasiner parce que les deux n'aiment pas la même fermeté. Fait qu'on dirait qu'en ce moment, c'est qu'il y en a toujours un qui dort mieux que l'autre s'il privilégie un choix que l'autre. Sachez que vous pouvez résoudre ça en dormant chacun avec votre matelas. C'est sûr que pour certaines personnes, c'est un peu inconcevable parce que le fait que, comme c'est un grand lit, ça donne un sentiment d'intimité ou de proximité. Mais,
ça dépend. Je peux ouvrir une petite parenthèse que nous, on a même notre set de couvertes chacun.
Exact.
Puis ça, pour un couple, c'est la fameuse joke que l'autre personne prend toutes les couvertes. Ben, ça peut se régler assez facilement si c'est juste deux sets de couvertes. Puis on dort. Moi, je dors très bien.
Moi, j'ai vraiment mieux.
Parce qu'on peut s'enrouler dedans. Puis c'est notre set de couvertes, tu sais. Puis c'est parfait.
Ouais, moi, j'ai un méga astérix là pour dire. Ça, c'est l'astuce que je me rappelle pas avoir entendu nulle part dans ma vie.
Non, c'est vrai. Hein?
Dormons chacun avec nos draps.
Ouais.
En tout cas. Puis si on veut se coller, ben, il y a des soirées cinéma pour se mettre des plus simples, des couvertes partout.
Ben
puis,
oui, ben
en tout cas. Fait que c'est ça qui arrive. Puis finalement, tu sais, on en parle. C'est avec le bébé que, dans l'autre épisode, une des craintes, c'est que, genre, il est, tu sais, on roule dessus ou qu'il est froid. Mais, tu sais, pendant les premières semaines, là, moi-même, je passais constamment mon temps à remettre les couvertes par-dessus ma corelle. Puis ça l'aidait que j'ai mon lot de couvertes qui était plus avec moi. Mais on dirait qu'il y a des springs dans ses jambes. Je ne sais pas si c'est comme ça pour votre enfant. Là. Mais Marc Corel, on dirait qu'il y a un mécanisme. Ouais. Je ne sais pas. Moi, une de mes hypothèses, c'est de dire, c'est-tu une autoprotection? De dire, genre, j'expulse tout ce qui me touche.
Hein? Ouais.
Puis il finit toujours comme en, soit à l'horizontale, qui est en face, ou en étoile, les jambes ouvertes. Pas de couverte. Fait pour l'instant, Marc Corel n'a pas son lot de couverte parce qu'il n'y a absolument rien qui reste sur lui, à moins qu'il est full fatigué.
Ouais.
Complètement capote.
Un pyjama, ça fait la job normalement.
Un pyjama, pour le, finalement, on laisse du linge. Fait que ça, c'est pour la parenthèse pour les draps. Sinon, au niveau des marques, j'en ai parlé rapidement. J'ai fait mon mémoire sur la communication, la consommation responsable, les entreprises sociales, comment être intègre, comment avoir des valeurs pour le bien commun, pour l'environnement. Je suis obsédée par les produits bien conçus et qui sont meilleur pour la planète, en guillemets. Ma perception ultime, c'est que ne pas consommer, c'est la meilleure forme de consommation. C'est le meilleur acte, c'est de rien acheter.
C'est la prémisse.
C'est la prémisse.
On part de là.
C'est ça, c'est ça. C'est un peu comme le changement vers les autos électriques. T'sais, si tout le monde dompe une auto qui est encore un petit peu bonne pour sa chaîne électrique, il y a quelque chose d'un peu absurde là-dedans. Je suis consciente que d'encourager les gens à vivre au sol, ça peut amener un mouvement aussi de « on se débarrasse de matelas qui étaient encore bons ». Fait que je vous dirais qu'idéalement, si vous avez encore un matelas qui est bon et que vous aimez, peut-être que la première étape, c'est juste de le déposer au sol puis de résister l'envie d'acheter quelque chose d'autre. Mmh. Si vous n'êtes vraiment pas confortable, là, c'est une autre affaire. Puis, checkez avant de l'amener, mettons, à l'éco-centre ou whatever, si vous êtes capable de le vendre ou de le donner gratuitement. Je sais que les matelas, c'est un peu controversé, mais je suis sûre que des matelas de haute qualité, qu'il y a des gens qui sont quand même prêts à en recevoir, surtout que des matelas neufs, ça peut coûter vraiment cher.
Ben oui. Vous pouvez aider quelqu'un.
Vous pouvez aider quelqu'un, fait que pensez à le donner. L'empreinte écologique des matelas est assez dégueulasse, là, j'ai googlé.
Ouais.
C'est pas beau, genre des tas de matelas, genre voir ça, ça finit à la dompe, c'est difficilement recyclable. Il y a des compagnies qui le font, par exemple. Fait qu'il y a espoir. Mais bref. Fait que sinon, au niveau de l'achat d'un nouveau matelas, c'est sûr, nous, nos critères de sélection, c'est ben, la production plus ou moins écologique.
Mm-hmm.
La santé, tu sais, je sais qu'il y a des enjeux parce qu'il y a des produits de marde dans certains matelas. Je pense, j'ai pas creusé énormément parce que j'étais assez convaincue rapidement qu'on est mieux d'aller vers de la fibre naturelle en général. Mais je pense qu'un des produits qui a fait plus jaser pour les matelas, c'est le fait qu'il faut. Il y a un produit qui empêche le feu, genre.
Ah oui.
C'est-tu une ignifuge qu'on dit?
Ouais.
Fait en tout cas, j'ai pas de temps à creuser, mais c'est peut-être quelque chose qui vous touche. Sinon, au niveau de la production, est-ce que c'est équitable? Est-ce que là où c'est complexe aussi, c'est qu'il faut distinguer le pays d'origine, tu sais, de la compagnie versus le lieu de production.
Mm-hmm.
Ça, c'est à réfléchir, dans le sens que ça peut être une compagnie canadienne, mais si c'est fait en Chine, comme moi, j'apprécie le savoir. T'sais. Puis, c'est correct des fois aussi que ça soit produit en Chine, mais dans d'autres pays, c'est fait de manière équitable parce que des fois, il y a certains pays, comme le Canada, on n'a juste pas, on n'a pas les manufactures, puis on n'a pas,
non, on n'a pas la
main-d'œuvre.
Ni le savoir.
Ni le savoir pour faire certaines choses. Fait que je peux concevoir aussi que c'est fait dans d'autres pays. Et l'autre enjeu, c'est le prix. Nous, le nôtre coûtait, je pense, entre 350 et 400 $ à l'époque. Ouais. Je pense que là, il a augmenté de 100$.
Ça fait quelques années déjà.
Mais je pense que t'acheter un nouveau matelas au sol peut osciller entre 200 et 500 $ ouais. Je dirais.
Ouais,
je pense que le modèle Costco, ça revenait moins cher. Mais encore une fois, peut-être que vous allez privilégier le marque québécoise. Pour ce qui est du lieu de production, ça vaut la peine de faire des recherches un petit peu plus. Puis je vais donner un exemple avec le Nugget, qui est un autre item. Dans le fond, il y a notre lit, mais un autre item multi-usage et un lieu de sommeil pour Marc Aurèle, souvent à la maison. C'est qu'on a un matelas de jeu qui s'appelle le Nugget. Je ne sais pas si tu veux le présenter. Je vais te laisser.
ouais, ben ce serait plus facile s'il était comme là. Mais c'est comme des coussins qui peuvent modulaires, qui peuvent s'empiler de différentes façons. Une des façons, c'est un espèce de divan plus au niveau du sol.
Plus bas.
Mais c'est aussi possible d'utiliser mes coussins pour faire des cabanes, pour faire comme... pour alimenter en fait l'imaginaire d'un enfant puis le laisser s'approprier ces items-là pour faire des jeux. Donc, c'est ça. C'est un des items qu'on a dans l'appartement. Marc-Rel ne joue pas avec en ce moment. Mais tu sais, il a fait une cabane l'autre fois puis il a trouvé ça bien drôle. Ou,
il grimpe puis il se tient dessus.
Ouais, il a appris à... quand il apprenait à ramper ou marcher à quatre pattes, il l'utilisait beaucoup pour s'accoter ou pour se promener.
Puis, je donne cet exemple-là parce que je sais qu'il y a aussi des marques canadiennes équivalentes parce qu'il y a comme un engouement pour les divans de jeu. Puis, les marques se copient toutes les unes les autres.
C'est sensiblement la même chose.
Mais je pense qu'une des marques qui a la plus grosse foule de fans, c'est la marque qui s'appelle Nugget aux États-Unis. Puis, j'ai hésité dans mon choix final entre une marque canadienne puis le Nugget. Et ce que j'ai appris, c'est qu'eux, ils ont une usine de production sur, j'allais dire, la rive, la côte est américaine. Puis j'ai comme calculé, alors qu'il y a certainement Canadiens qui produisent en Chine, et j'ai calculé que, mettons, la livraison entre, mettons, faire livrer un item de la côte est américaine jusqu'à Montréal, c'était plus court que de faire shipper de quoi qui venait de l'Ouest canadien. Ce qui est comme un peu absurde. Fait que,
qui vient de l'Ouest canadien puis qui est peut-être fait
pas
en Chine
ici,
aussi. T'sais. Fait que c'est beaucoup de transport. Puis de...
Fait que, encore là, je pense que ce qui est complexe aussi dans la consommation responsable, c'est que ça. Des fois, il y a des trade-offs entre nos valeurs. Fait que de dire qu'est-ce qui a le plus de valeur? L'environnement, le fair trade, la qualité des matériaux, la santé pour ma famille, le prix.
Le local.
C'est comme le local, c'est toujours une espèce de danse. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de réponse parfaite,
pas
je crois,
magique,
en ce moment.
Ouais.
Mais je pense que ça revient à ça. La meilleure marque, c'est lister vos valeurs, lister vos critères, en fait, de sélection, puis essayer de trouver la compagnie qui coche le plus de choses. Il y a des marques québécoises de matelas, des tapis de jeu, des divans de jeu, je pense pas qu'il y en a des Québécois, en tout cas. Mais bref, ouais, parce que le Nugget, aussi, ce qu'on aime, c'est que c'est les coussins sont aussi à peu près la taille d'un lycée. Fait que c'est comme quand on a des invités où moi, je pourrais dormir dessus, toi, t'es au grand. Mais on a accueilli tes neveux nièces qui c'était un lycée de plus qui était vraiment le fun. Genre. Fait que ça, c'est un super bel item multifonctionnel de sommeil. OK. Pour ce qui est de la transition.
Question 2.
Question 2.
Comment on transitionne d'un lit normal à un lit au niveau de ça?
C'est vraiment important d'en parler parce qu'on a 2-3 personnes qui ont fait tout de suite le switch.
Qui étaient très excitées par cette approche-là, emballées par cette approche-là, puis voulaient tout de suite avoir un espace collé au niveau du sol, ferme, puis que, ils ont frappé un petit mur dans ce processus-là.
Oui. Fait que, veux-tu expliquer un peu comment tu as vécu ta transition?
Moi, ma transition, tu sais. Nous deux, en fait, ça s'est passé sur plusieurs années pratiquement. Comme moi, je pense que la transition a commencé quand j'ai commencé à voyager plus. Puis en Asie, puis dans ces endroits-là, parce que le confort était moins au rendez-vous, mettons. C'était des surfaces de sommeil différentes, puis il fallait tout le temps s'adapter. Fait que ça a peut-être planté la graine que, on peut dormir de différentes façons aussi. Puis tu sais, les Sherpas, justement en Inde, où on se prend dans des villages, puis là, on voit que les gens dorment sur ces items-là. Qui sont plutôt fermes, là. C'est pas l'affaire la plus molle qui existe. Fait que la transition a peut-être commencé là, mais après ça, Quand on a habité ensemble, ben, c'est là que tranquillement on a descendu le matelas de plus en plus bas jusqu'à ce qu'on achète ce futon japonais-là qu'on a en ce moment et qu'on est très satisfait, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. T'sais. C'est un processus qui a duré des années, t'sais, qui a été très progressif.
Ouais. Moi, de mon côté, pendant longtemps en appart, j'ai eu le lit simple que j'avais quand j'étais ado, que j'avais construit le frame avec mon père. Il était surélevé. Un autre avantage d'avoir un lit un peu surélevé, c'est que des fois, on peut ranger des choses en dessous. Fait que ça, je comprends aussi que c'est un avantage. Fait que moi, c'était ça que j'ai gardé. Puis c'était j'avais pas de sommier, c'était un matelas, tu sais, que je sentais les springs. Je pense que mes critères de confort étaient très, très bas. Fait que quand j'ai eu un lit double, genre, je préférais ne pas dépenser pour une base de
Même
lit. Puis
base.
j'aimais l'esthétique d'avoir un matelas au sol. Fait que je l'ai mis directement par terre. Puis c'est avec cet aménagement-là que par après, j'ai découvert, mettons, Cathy Bowman qui dormait carrément sur des pots, qu'elle arrangeait le lit en journée. Fait que pendant un certain temps, je me disais, ah, est-ce que j'ai comme une structure comme, tu sais, les lits qui sont dans des commodes, là, que tu peux ranger au
Plus bien comme
pilier,
un mur.
qui devient un mur. J'essayais de patenter ça de manière plus rudimentaire. Puis j'ai réalisé finalement qu'un modèle plus léger ferait, tu sais, comme ferait l'affaire. Mais pendant un bout de temps, finalement, j'en mets ça sur un mauvais matelas. Après ça, sur un matelas comme plus épais, mais directement au sol. J'avais aussi commencé à. On a commencé à se départir aussi de notre oreiller. Des fois, on apprenait à dormir sans oreiller. Puis, je dois dire que moi, c'est le yoga aussi qui m'a donné cette envie-là de me connecter au plancher puis
D'être
d'être groundée.
groundé.
C'est comme. Je trouve que c'est une des pratiques qui rappelle constamment cette notion-là de sentir ses pieds, ses mains sur le sol, de se déposer, de s'enraciner. Puis on dirait que cette appréciation-là, juste d'être couché puis de sentir la pression du sol, de la terre qui nous soutient, ben je me disais, je veux revivre ça quand je dors. Fait qu'il y a aussi cette pratique-là du yoga, je trouve, qui m'a beaucoup inspirée puis comme habituée pendant des années finalement à aimer le plancher. Mon tapis de yoga, c'est le plus mince maintenant que j'ai trouvé.
C'est comme une feuille
C'est une
de
feuille de
caoutchouc.
caoutchouc naturel. Même dans le yoga, je voulais comme le moins de moumou. Je voulais comme sentir le sol. Finalement, ironiquement, je réalise que des planchers industriels, des planchers de maison, c'est trop dur. C'est pas représentatif de la terre extérieure qui a un certain comme coussin, une certaine absorption. Fait que là, finalement, dans notre maison, ben on rajoute des tapis de jeu puis des tapis un peu plus épais. Mais bon, c'est ça. En fait, c'est ça. L'important, je pense, pour ce point-là de la transition, c'est vraiment important de comprendre comme c'est quoi votre définition du confort, de où vous partez, où est-ce que vous aimeriez vous rendre, de vous laisser un temps de transition. Je pense qu'une des façons, c'est ça, c'est d'amincir les surfaces, tester de temps en temps de dormir juste à terre. Pendant un bout de temps, moi, je faisais ça. Je dormais juste directement à terre, puis ça avait donné des grosses pressions sur les hanches et tout, mais on dirait qu'après un certain temps, moi, je me disais, c'est comme un massage, c'est comme un massage. Puis je finissais par me sentir bien à terre. C'est juste des expérimentations. Je pense que pour n'importe quelle approche qu'on parle, moi et Vince, on veut rarement dire, genre, vous devez exactement faire ça. On aime plus dire, comme, ayez du fun, essayez des affaires dans la vie, vous êtes libre d'aménager votre maison comme vous voulez. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien qui vous empêche de changer ce que.
Comme viser quelque chose, mais soyez souple en fait,
Exactement.
puis agile
Exactement.
dans le processus pour atteindre cette chose-là.
Ouais. Puis à chaque fois, je commence à prendre les choses trop sérieux, à devenir anxieuse ou à avoir un stress de performance. Moi, ce qui m'apaise, c'est la curiosité. C'est de me ramener dans un état juste être curieuse, se rappeler que le but, c'est d'apprendre. Puis que pour apprendre, il faut essayer des choses. C'est toujours une danse, en fait. Faire de la recherche, se préparer, mais aussi passer à l'action. Puis c'est un peu, c'est comme la danse entre les deux qui fait que les choses, c'est ça, se développent puis évoluent. Puis, exemple, tu sais, j'ai vu un article d'une fille qui partageait son expérience justement d'avoir comme enlevé sa base de lit, elle et son conjoint, qu'elle l'a fait pendant un bout de temps, elle était rendue au sol, elle aimait ça, mais la manière, elle a commencé à avoir mal au dos. Fait qu'elle a arrêté de le faire, mais ça n'a pas réglé son mal de dos. Fait que là, elle a réalisé finalement que ses maux de dos étaient plus liés à comment était assise puis à travailler en journée devant son, je pense, devant son ordinateur. Fait que finalement, elle a changé ses habitudes en journée, puis elle dormait mieux la nuit. Mm-hmm. Fait que moi, c'est ce que... Changer un style de vie, c'est vraiment, vraiment complexe.
Oh, c'est multifactoriel. Fait que des fois, on se dit, ah, ça doit être ça.
Ouais.
Mais là, finalement, c'est d'autres choses.
C'est d'autres choses.
Mais c'est là que d'avoir le mindset d'expérimentation, justement, nous permet d'essayer plusieurs choses.
Exactement.
Rapidement. Puis, ah, là, finalement, on met le doigt sur quelque chose, on change un peu ça, puis là, ça améliore le...
Ouais.
La bébelle, mais tu sais, c'est ça, le style de vie, c'est complexe, il y a tellement de variables.
Puis, il y a une partie de moi que des fois, je suis tannée, parce qu'à un moment donné, tu veux une réponse. Alors, pourquoi mon enfant me kick d'en face à nez? Je voudrais une réponse, ouais. Mais il y a d'autres fois, c'est justement pour ça que j'aime ce domaine-là, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre, puis c'est comme un cube Rubik, qu'il y a toujours de quoi.
Ben,
un cube Rubik, à un moment donné, il est fini, là. Je pense que le style de vie, genre, il y a toujours matière à explorer, mais...
C'est tellement complexe, bien plus complexe qu'un cube Rubik.
Mais, citation du jour. Mais bref, fait que c'est ça, ça se peut aussi, si jamais vous faites attention et que vous ne dormez pas bien, ça se peut que ce soit lié au matin, puis ça se peut que ce soit lié à votre vie en journée. Mm-hmm. Puis ça va peut-être d'adresser son sommeil, ça amène aussi beaucoup de questionnements sur nos choix de vie en journée, sur... Est-ce qu'on bouge en journée puis on arrive le soir puis on a envie de dormir puis de se reposer? Ou est-ce que notre corps n'a pas assez bougé, fait qu'il est super hype? T'sais, on est hyper stimulé mentalement, notre corps a trop d'énergie accumulée, fait qu'on ne dort pas bien.
Sous-stimulé physiquement, sur-stimulé mentalement. Parce que tu sais, vous l'avez sûrement vécu, mais mettons une journée d'été où vous allez faire, je sais pas, une hike ou une excursion où vous êtes très actif avec des gens que vous aimez, ben vous allez dormir le soir.
Ouais.
C'est souvent ce qui est vécu. Là. On tombe puis tu sais... ça va tomber, il va dormir ce soir, cet enfant-là, parce qu'il est bougé toute la journée. Ben, c'est vrai pour les adultes aussi. Là.
Ouais.
Fait, c'est ça, c'est un des facteurs qui peut jouer, mais c'est tellement... C'est tellement
Je pense que l'arrivée d'un enfant, ça nous a amené à être encore plus sensibles puis à l'écoute de d'autres variables. T'sais, je pense qu'on était déjà assez strict sur nos routines de sommeil, comme on baisse les lumières à partir d'une certaine heure. Pendant un certain temps, on avait comme... Notre Internet fermait automatiquement.
Ouais.
Je pense à 9h30, on se laissait un temps de une demi-heure à une heure sans médias sociaux, sans comme téléphone, Internet,
ouais,
avant de se
coucher. On appelle ça le cool-down.
Là, ça a un peu changé, mais comme on essaie quand même, tu sais, on a une règle de jamais de cellulaire dans le lit.
Pas d'écran.
Pour moi, c'est vraiment important, jamais d'écran dans le lit. Le lit sert à dormir seulement. Là, on réfléchit à la luminosité, à la circulation de l'air, à la pollution sonore, la pollution lumineuse.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est comme, le sommeil, c'est un méga sujet. Fait que, je veux pas vendre que changer votre matelas va changer votre vie du jour au lendemain. Au contraire,
non.
Il peut avoir un temps d'adaptation avant que vous vous sentiez vraiment mieux.
Ouais, puis ça va peut-être faire émerger d'autres choses, en fait, par rapport à votre style de vie, ce qui va nous amener, en fait, à la prochaine question, peut-être, là, mais ce qu'on essaye de faire avec, de comprendre, en fait, avec Marc-Aurèle en ce moment.
Exact. Fait que dernier point, en fait, c'est une question qui, j'allais dire, j'ai pas la réponse.
Ça, on est encore en mode test pour ça.
Exactement. Puis c'est vraiment important pour moi d'exposer plus notre processus de découverte puis d'apprentissage que de juste
donner des réponses.
Se positionner comme des experts infaillibles. C'est vraiment pas notre approche. Dernièrement, puis on est peut-être un petit peu plus cerné, puis vous allez peut-être le voir.
C'est qui suit nos stories aussi.
Marc-Aurèle a des nuits vraiment turbulentes. Puis on ne sait pas exactement encore pourquoi.
Les hypothèses, mais
hypothèses, les dents, la digestion.
On bouge beaucoup aussi en ce moment. On se déplace beaucoup d'un endroit à l'autre.
Une de mes hypothèses pendant longtemps, quand elle était vraiment plus petite aussi, c'est la consommation de café. Puis j'avais essayé de trouver des études qui disaient que ça n'avait pas d'effet. D'autres qui disaient que c'était juste l'absorption de la caféine était vraiment variable chez la mère et chez l'enfant. Fait que c'était dur à dire si ça influençait ou pas.
Ça dépend de deux métabolismes.
Oui, c'est ça.
Celui de la mère et celui
de l'enfant. Moi, j'ai longtemps testé de couper le café, ramener le café. Puis je trouvais que ça avait un lien. Puis dernièrement, justement, c'est un peu un cercle vicieux, je dors moins bien. Fait que le matin, je veux boire un café. Là, l'hypothèse revient parce que hier, exceptionnellement, j'en ai bu deux, ce qui arrive presque jamais. Et ça a été une des pires nuits dernièrement.
Fait que
là, bref, il y a un inconfort à ne pas avoir les réponses. Mais comme pour moi, c'est le terrain de jeu. C'est de partir à la recherche des réponses.
Fait que
quand on a partagé le post, justement, il y a des parents qui confirmaient que leur enfant était turbulent la nuit ou aimait la position à l'horizontale, ce qui m'intrigue vraiment, vraiment beaucoup. Moi, je deviens presque excitée, là, au fait que genre fou mal. ça, c'est quelque chose à investiguer.
Oui, parce que si c'est un pattern, si ça devient un pattern, ça devient intéressant parce que ça,
ouais.
Des fois, ça indique quelque chose. Fait.
Oui. Fait que dans notre processus de découverte, souvent, c'est comme on va observer, on va émettre des hypothèses, puis là, après, je vais aller faire des recherches ou avoir des discussions avec d'autres parents ou d'autres personnes pour essayer d'avoir plus de données pour valider ou invalider mes hypothèses, comme le café. De dire, hey, ça a-tu rapport? Puis là, je vais aller faire un peu de recherche. Ou mais je vais aussi expérimenter des choses. Pour ce qui est de dormir à l'horizontale, mon intuition en ce moment, c'est que c'est un instinct de protection, c'est une question d'espace, de liberté de mouvement, mais je suis pas encore sûre. Allô, petit bonhomme?
Ah. Ouais, je pense qu'il est chaud, le petit bébé.
Ouais, hein, toi aussi, hein, la situation cool. Oh, bon, OK. Puis.
On va prendre une petite pause. À tout de suite. De retour de la petite pause avec un bébé qui est maintenant réveillé.
Et dans nos bras, fait qu'on va faire ça. On va conclure. bref, il y a des trucs qu'on n'a pas encore de réponse. Il y a des trucs que je veux vraiment aussi investiguer. On en a parlé dans l'autre épisode, mais c'est la peur du noir. Une de mes hypothèses, c'était que la grande résistance des enfants à dormir tout seul dans leur chambre, c'est une peur innée du noir. Et que faut juste compenser avec plein d'items pour rassurer l'enfant, alors que ce qu'il veut, c'est la présence d'autres
humains. Une présence.
Une présence humaine. Et dans mon processus de recherche entre les deux épisodes, je suis allée sur Google Scholar. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil, mais vous pouvez rechercher des articles scientifiques par cette avenue-là. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui font un accès payant. Si jamais vous êtes à l'école ou vous êtes diplômé d'une institution, des fois, il y a des forfaits avec l'université qui vous permettraient d'accéder aux articles. J'ai trouvé un article qui confirme un peu qu'il y a une peur du noir innée chez les enfants et même chez les adultes pour différentes raisons. Et eux, ils l'analysaient dans une perspective environnementale. C'est eux, ils l'analysaient en disant c'est ce qui expliquerait qu'au niveau des villes, il y a énormément de pollution lumineuse. C'est que on voit le noir comme une source de menaces potentielles, un lieu
mystérieux.
Mystérieux. C'est pas pour rien que dans les films d'horreur, puis dans les films d'action, quand les scènes stressantes, c'est dans des endroits peu lumineux. T'sais, cette symbolique-là est vraiment, vraiment puissante. Là. C'est juste l'expression de notre imaginaire où on se sent moins en sécurité quand on voit moins bien.
On sait pas ce qui est là.
Ce qui est là, exactement. Et avec raison, parce que historiquement, il y avait des prédateurs qui pouvaient nous enlever la vie.
Qui, eux, voient dans le noir, fait que c'est pas juste.
Fait que l'humain n'est pas un animal nocturne, vraiment. On n'a pas les capacités d'autres espèces. Bref!
Mais on est un animal social.
On est un animal social. Et, bref, juste pour vous dire qu'en quelques jours, j'ai commencé à lire sur la peur du noir. Et c'est un sujet définitivement qu'on va se reparler. Si ça pique votre curiosité... Je vous invite à investiguer avec moi, à partager les ressources que vous aimez. C'est ce que j'aime faire aussi là, avec le podcast avec Instagram, c'est de vous solliciter, savoir c'est quoi vos ouvrages coup de cœur, vos auteurs de coup de cœur.
Margaret s'amuse à pitcher les objets.
Affaires. bref, l'outil clé, Google Scholar, c'est génial. Un sujet à venir, ouais, c'est ça. Pas du tout. Fait que, avec un petit bébé super actif à nos côtés, on va aller faire une journée en famille. Mm-hmm. Et c'est ce qui met fin aussi à notre série sur le design actif à la maison
avec un bébé. Il y a un bébé dans l'épisode cette fois-ci.
On a parlé de 4 thématiques qui nous tiennent à cœur. On va faire d'autres séries thématiques. La prochaine qu'on va annoncer, c'est autour du mouvement et de comment notre vision du mouvement a aussi été inspirée des domaines du jeu libre extérieur chez les enfants, le jouer dehors en nature. Le jeu libre, la motricité libre, souvent qui est plus parlée au niveau de pas des bébés, des jeunes enfants.
La littératie physique.
La littératie physique.
Vient du monde un petit peu plus du loisir, de l'activité
sport,
physique.
Qui est une superbe, superbe approche. Je pense que beaucoup de parents intéressés par le jeu libre aimeraient énormément la littératie physique. Si ce n'est pas quelque chose que vous connaissez, je vous invite à le googler, mais aussi à suivre ce qu'on fait parce que ça s'en vient.
Prochaine série.
On a d'ailleurs des invités de podcast dans le passé qui en ont déjà parlé. Fait que vous pouvez aller voir nos archives. On en parle. Yann Lequeo, Marianne Parent.
Oui, dans les premiers invités.
Dans les premiers invités.
Ouais.
Donc voilà. Et ce qui s'en vient aussi, c'est que le podcast est né avec des invités.
Oui.
Et les invités reviennent. Fait que restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne. On a des super beaux invités.
Dont le prochain?
Ingrid Bayo.
Ingrid Bayo, qu'on a eu une belle discussion avec elle, puis qu'on s'apprête à diffuser dans les prochains jours.
Oui. OK. Donc bon, voilà, suivez-nous sur abonnez-vous au podcast, c'est des 5 étoiles, des commentaires si vous aimez ce qu'on fait.
Ouais.
Suivez-nous sur Instagram, c'est là que ça se passe, on publie chaque jour. Sur Facebook aussi, mais Instagram, c'est un peu le hot spot en ce moment.
Venez nous jaser, on répond à tous les messages aussi qui nous sont envoyés en privé.
Voilà, à bientôt!